Pascal Mondial.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard. 5, 2, 1.
Non, mais quelle belle journée. Bon vendredi. Bonjour Québec, comme dirait notre chroniqueur Louis. Sur l'heure du midi de Chroniqueur International. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Magnifique journée sur Québec, pourquoi? Ben parce que c'est du soleil sur à peu près tout le territoire aujourd'hui. 1 degré déjà à l'extérieur, ça pourrait monter jusqu'à 5, un faible 40% de possibilité d'averse. Vous êtes dans l'heure CV, suite à Rage Against le matin, je m'installe avec vous. Mon nom est Pascal, Pascal CV, et on est ensemble pour un meeting de 1 heure. Toutes les semaines, donc du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Et c'est un réel bonheur d'être avec vous. Et c'est aussi un grand privilège, hein, parce qu'on le sait, c'est un domaine où vous choisissez de nous écouter ou pas. Et à tous ceux qui ont choisi 102.1 en ce moment, merci du fond du cœur. Vous pouvez communiquer avec moi tout au long de l'émission et c'est pareil pour les autres équipes de la programmation par le 418-971-1021. C'est un texto, ça coûte rien. C'est comme si vous textez votre mère, votre belle-mère, votre blonde, votre chum, votre ami. 418-971-1021. Et je vous conseillerais de nous rentrer dans vos contacts. Soit vous mettez BLVD ou vous mettez le nom de Reg, vous mettez mon nom, vous mettez le nom de Denis, vous mettez le nom d'Audrey, peu importe. Faites comme si vous nous textez directement parce que c'est exactement ça qui se passe quand vous nous écrivez. Sinon, par Twitch, je viens de l'ouvrir. Mes salutations distinguées à tous ceux qui y sont. Quotidiennement, on est une belle petite gang. On est des collègues de travail avec vos collègues de travail. Et si vous voulez passer le mot au bureau, ben faites-le. Comme ça, vous allez tous brancher au même endroit. Le twitch.tv/BLVD/FM. Si c'est allé trop vite, ben textez au 418-971-1021 puis je vous envoie le lien. En ce vendredi 15 mars déjà, la moitié du mois de mars, on se dirige plein fouet dans ce qu'on appelle le printemps. Aujourd'hui, grosse journée, oui, en politique, encore une fois. Beaucoup d'annonces, entre autres, il y aura la rencontre Trudeau-Legault aujourd'hui. De quoi vont-ils parler? Chose certaine, il y en a des sujets et surtout l'immigration. C'est au sommet des enjeux entre Ottawa et Québec, on le sait, et on ne s'entend pas. On va aller faire un petit tour dans tout ça avec Jérémy et Guillaume un petit peu plus tard à l'émission. On va aussi jaser des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà envoyé une insulte à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux? Soyez honnête, soyez fort honnête. Il n'y aura pas de jugement ici. Oui, on va jaser de ça, mais soyez honnête, j'ai besoin que vous me le disiez. Puis je le sais, là, on a déjà vu passer là, sur Twitch là, des insultes, là, des gens bien en sapristi sur certains propos ou encore en désaccord avec des opinions qu'on émettait en ondes ou encore à ceux de nos invités. Soyez honnête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et est-ce que vous êtes dompté de ça? Est-ce que vous êtes dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, pourquoi j'ai fait ça? Ou vous continuez? En même temps, ceux qui le font de façon régulière, j'ai l'impression qu'ils ne seront pas à nous écrire qu'ils en font des insultes, ils ne s'en rendent même pas compte. Salut à tout le monde, les salutations commencent à entrer, c'est vraiment le fun de voir vos noms. Hey, on va prendre les présences aujourd'hui, puisque c'est vendredi. Écrivez-moi où vous êtes en ce moment, puis quels sont vos plans pour le week-end qui s'annonce, somme toute, assez beau, mais côté hiver, dans le sens où ça va être du ski de printemps. La neige sera magnifique, il y en aura, et avec un 1 degré pour demain et un 3 degrés comme maximum pour dimanche. Alors, ce sera une belle fin de semaine de plein air. Profitez-en, allez prendre l'air, allez prendre une bonne bouffée d'air frais avant que l'été s'en vienne, parce que oui, on est plus près de l'été que le prochain hiver. Aujourd'hui, pour commencer l'émission, on va aller avec une citation d'un film, Fight Club. Excellent film en passant, si vous n'avez jamais entendu parler de ce film-là, tapez-vous ça en fin de semaine. Voici le proverbe dans Fight Club qui est « On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. » On peut se poser des questions sur notre quotidien qui est, somme toute, assez facile par rapport à l'histoire, par rapport à ce que d'autres vivent en ce moment, à l'international quand même, mais aussi dans leur quotidien. C'est ça que c'est un peu triste hein, pour ça de se dire, bien, nous, on est privilégiés, puis prenons compte du fait qu'on est privilégiés. Vivons notre vie le plus heureux possible si on est capable, même si on n'a pas tout ce que le voisin a. Hein, l'histoire des voisins gonflables, c'est pas important. L'important, c'est votre cœur. Puis c'est lui qui est à chérir. Alors, citation de Fight Club. Merci d'avoir choisi leur CV. On s'en va en musique avec Sarah Dufour qui, elle, part en tournée en Chine. On y a parlé hier à l'émission. Elle s'en va en tournée en Chine. 6 spectacles qui seront présentés à un public chinois, entre autres dans un festival. Il y a d'autres groupes qui avaient fait ça dans le temps, dont Caravane, groupe de Québec. Elle est très, très, très excitée. Bien hâte de faire ça en mai prochain. On va lui parler une fois sur place ou encore au retour. Ça dépend des communications. C'est tout de même la Chine. Hein? Je m'en vais dans le bois, Sarah Dufour.
Leur CV avec Pascal CV.
Merci d'avoir commencé à répondre à la dite question ou salutation demandée au 88-971-1021. Je vous demandais, est-ce que vous avez déjà insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux en vous pensant ou caché derrière votre écran ou encore juste en prenant pas conscience de ce que vous êtes en train d'écrire, ce que vous êtes en train de dire à quelqu'un, un être humain au bout du clavier? Je dis ça parce que on en voit beaucoup des insultes auprès des politiciens, on en voit beaucoup des insultes quand on est dans les médias, on en voit beaucoup des insultes quand on ne connaît pas la personne ou encore quand on a l'impression qu'il y a vraiment une grande distance entre nous et la personne insultée, finalement. Mais peut-être qu'il faudrait avoir cette réflexion-là, qui est un sujet de l'heure, un sujet assez moderne. On va aller parler de plusieurs choses avec Jérémy Gillot dans un instant à l'heure CV. Le hic est que il n'y a pas juste ça qui est important, soit les insultes qui ne se rendent pas plus loin, mais il y a aussi celles qui se rendent très loin. Il y a un homme qui a été arrêté pour avoir fait de sérieuses menaces de mort au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. On va aller parler, est-ce que les politiciens peuvent bloquer des citoyens? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce une bonne stratégie? Puis aussi la rencontre entre Trudeau et Legault aujourd'hui. Avant, c'est vendredi et je suis tombée sur une petite perle. Tu sais, Tinder pour rencontrer, c'est une affaire. Je ne sais pas si vous êtes bien fan, si vous avez apprécié justement utiliser ces réseaux-là de rencontres, mais il y a l'ancêtre de Tinder qui est quand même assez particulier. Et c'est un bip-bip. En fait, c'est un peu comme un bracelet anti-rapprochement, mais ça, c'est pour les rapprochements. Tu le traînais avec toi et tu le faisais sonner quand il y avait quelqu'un qui t'intéressait ou encore quand il y avait quelqu'un qui avait un autre bip-bip à proximité. Comme ça, tu pouvais savoir que cette personne-là est à la recherche de l'amour ou d'une rencontre. Hein? Une rencontre, ça peut être très large. Je vous fais entendre un court reportage.
Vous êtes triste et solitaire. Vous enviez les couples qui s'aiment, mais vous hésitez à vous jeter à l'eau de peur d'être éconduit. Timide de tous les pays, réjouissez-vous, le bip-bip de l'amour est arrivé, c'est le flashing.
Ça se porte sur soi n'importe quand, n'importe où, et quand vous croisez un autre ou une autre possesseur de flashing, ça émet un bip sonore. Autrement dit, le flashing, ça permet de faire des tas de rencontres.
Inventé par une self-made woman qui a peut-être souffert, ce merveilleux petit appareil possède plusieurs fréquences.
Les fréquences sont des fréquences hommes-femmes, ce sont des fréquences homosexuelles, des fréquences lesbiennes et des fréquences couples échangistes.
Vous pouvez vous tromper de fréquence en manipulant l'appareil et alors, attention aux surprises.
Oui, bonjour.
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 Marie-Man.
Mais dites-moi, on est sur la même fréquence,
là? Oh, bah écoutez, non, vraiment, écoutez...
C'est quand même très drôle, une fréquence aussi pour savoir c'est quoi tes préférences de rencontre. Et si tu te trompes de fréquence, ça se peut qu'on t'approche, mais que ça t'intéresse pas. Un ancêtre de Tinder, la fréquence bip-bip. Un peu comme un vieux Padgett, finalement. Mais il semble qu'il y a des choses un petit peu plus efficaces. Restez là dans leur CV, on revient avec Jérémy Guillaume. On va analyser un peu côté politique ce qui s'est passé. Puis, comme d'habitude, on va le faire avec légèreté et bonne humeur.
Visitant le Brin Smoke.
On suit de très près la rencontre entre François Legault, premier ministre du Québec, et M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada. C'était aujourd'hui que ça se passait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à aborder, entre autres l'immigration, je veux dire, qui fait l'actualité à chaque jour, mais qui est aussi éclipsée à chaque jour depuis plusieurs semaines, parce que y a des dossiers comme le budget qui sortent ou encore les scandales avec les rencontres de politiciens qui coûtent 100 $ finalement pour 2 minutes. À chaque semaine, son scandale, et donc... Tout ce qui est rencontre pour l'immigration, ce qui est rencontre également pour la santé entre Ottawa et Québec, ça passe sous le couvert de l'anonymat. Disons-le comme ça, mais il y en a un qui surveillait ça pour nous dans les dernières semaines et on lui a parlé justement du sujet, je pense que c'est la semaine dernière. Il est au bout du fil, il s'appelle Jérémy Guillot. Merci Jérémy d'être là, directeur chez TAC, t'es au bout du fil?
Bonjour Pascal.
T'es venu en studio cette semaine, puis là on te retrouve au téléphone parce que tu es de retour dans ton grand Montréal. Mais ça t'empêche pas de jeter
un œil. L'actualité politique se bouscule cette semaine, ça n'a aucun bon sens.
C'est incroyable avec le budget qui a fait réagir pendant plusieurs jours. À un moment donné, on a pris la décision d'arrêter d'en parler, d'attendre que les petites perles ici et là ressortent à travers les prochains jours. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cette rencontre entre François Legault et Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des citoyens qui s'en foutent éperdument, mais ça reste une rencontre très importante entre les deux hommes politiques, là.
C'est toujours une rencontre très importante quand il y a une rencontre au sommet entre les deux premiers ministres. Aujourd'hui, ce qu'on me dit du côté d'Ottawa et de Québec, c'est qu'environ 80 % de la rencontre qui va être sur l'immigration, puis un autre 20 % de la rencontre qui va être sur les transferts en santé. On sait, Québec veut se faire indemniser pour le programme d'assurance médicaments qu'on a déjà, qu'Ottawa veut mettre à la grandeur du pays. Donc, les discussions à ce niveau-là vont être intéressantes. Mais le gros du sujet, ça va être l'immigration. Monsieur Legault, hier, a répondu dans une question à l'Assemblée nationale à Paul Saint-Pierre Plamondon que l'immigration et le rapatriement des pouvoirs en immigration, ça va être sa priorité pendant la rencontre d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on s'attend à avoir des résultats de cette rencontre-là? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé du sujet, Jérémy, c'est plutôt un bras de fer, c'est plutôt, une inéquité.
Un dialogue de sourds un peu.
Ouais, absolument. Puis là, on fait-tu semblant, finalement, qu'on a été capable de parler puis de dénouer les nœuds dans ces deux très importants pans de la politique, soit l'immigration et la santé entre Québec et Ottawa?
Bien, c'est très certain que M. Legault et M. Trudeau ont intérêt à faire comme s'il y avait des avancées, même s'il n'y en aura peut-être pas beaucoup. M. Legault sent très certainement le souffle de Paul Saint-Pierre Plamondon, du moins on le voit dans les sondages qui commencent à prendre le devant. Il doit démontrer qu'il fait des gains. Et de l'autre côté, M. Trudeau a besoin d'alliés. Donc, ça va être intéressant de voir pour la première fois les deux hommes qui ont besoin l'un de l'autre, même s'ils ne s'entendent pas idéologiquement. M. Legault, ce qu'il veut, c'est plus de pouvoir. Il dit vouloir rapatrier les pouvoirs. Et ça, il le dit depuis son tout début avec la CAQ. Il l'a mis dans sa plateforme électorale. Il n'y a personne ici là, qui est bien surpris de ça. Au contraire, si hier, il avait dit en chambre qu'il ne parlerait pas d'immigration, je garantis que la couverture aujourd'hui aurait été fortement plus négative que ce qu'on voit en ce moment. Aujourd'hui, ce qu'il veut faire, il veut demander à Ottawa, notamment, plus de pouvoir en matière des demandeurs d'asile, ou du moins, si pas plus de pouvoir, le fait que Ottawa les redistribue plus équitablement dans les autres provinces. Et il veut conserver et gagner des pouvoirs en matière d'immigration temporaire, notamment pour les étudiants étrangers.
Ça, c'est un peu difficile à comprendre au quotidien, dans le sens où on veut faire en sorte que les étudiants étrangers viennent ici, qu'ils soient bien incorporés et qu'ils fassent partie de la vie étudiante en général?
Bien, tout ce qui est l'immigration temporaire, M. Legault et son équipe sont bien conscients, ils ne demandent pas tous les pouvoirs pour avoir des postes de douane Québec au lieu de Canada. Ça, c'est M. Paul Saint-Pierre Plamondon qui demande ça avec l'indépendance du Québec. M. Legault, ce qu'il veut, c'est se concentrer sur ce qu'on appelle l'immigration temporaire. Se concentrer sur la réunification familiale. L'immigration temporaire, ça, c'est économique. Par exemple, quand il y a des travailleurs temporaires qui viennent travailler dans les fermes du Québec ou dans les usines, bien, ça, c'est de l'immigration économique temporaire. Et les étudiants temporaires, ils en veulent un peu moins et davantage de francophones. Mmh. Ça, pour le Québec, c'est des choses qu'ils jugent dans leur juridiction et c'est des choses qu'ils vont demander à Ottawa. Ça s'accompagne d'une demande financière d'environ 1 milliard $. On avait vu il n'y a pas si longtemps 4 ministres du gouvernement caquiste sortir, demander 1 milliard $. Et pourquoi on demande cet argent-là? Bien, c'est parce que à Québec, on juge qu'on en reçoit plus que prévu, qu'on en reçoit même trop, et on va aller chercher de l'argent du fédéral pour aider à l'intégration, contribuer aux efforts quand on reçoit des immigrants, là, éducation, santé, garderie, etc. C'est tous des services qui coûtent plus cher à l'État. Donc, et Québec est la seule province au Canada à aller chercher de l'indemnisation parce que c'est eux qui sont responsables de l'intégration contrairement aux autres provinces.
Fait qu'en ce moment, il faut dire que François Legault se bat pour les intérêts financiers. Disons-le comme les intérêts financiers aussi des contribuables, en se disant, ben là, il faut aller chercher une enveloppe supplémentaire à Ottawa parce que les enjeux que l'on vit ici avec l'immigration commencent à nous coûter cher. Puis en plus, ben, ça mine la montée d'une bonne intégration et donc d'une bonne société, si on veut, pour tous
et exactement. Chacun. Exactement. Et ça, si on s'en tient là, parce que le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration, c'est un peu un couteau à double tranchant. Là, on parle de l'immigration temporaire. Mais si on parlait vraiment de tous les pouvoirs en immigration, ça voudrait-tu dire qu'on serait responsable de tout ce qu'Immigration Canada est responsable? Ça veut-tu dire qu'on aurait des postes frontaliers, douaniers du Québec, gérés par le Québec? Et là, ben, un gouvernement qui a un déficit de 11 milliards de dollars, je ne suis pas certain que c'est exactement ça qu'il veut. Mmh. Donc, on assiste aussi à un peu un exercice de relations publiques. M. Legault doit démontrer qu'il fait des gains. Il en a fait dans la dernière année. Il est allé chercher, par exemple, le cabinet de M. Legault va dire « on a eu les visas sur les Mexicains, la fermeture du chemin Roxham et le plafonnement des étudiants temporaires étrangers ». Ottawa va dire qu'on a fait ça en collaboration avec Québec. Mais il y a eu des avancées. Tout ça ne va pas se faire demain matin. Il ne va certainement pas se faire dans une rencontre d'une trentaine de minutes, une heure.
Non, c'est ça. Surtout qu'il va y avoir un point de presse ensuite pour les journalistes. J'ai l'impression que c'est plutôt l'ouverture. Tu sais, le point 1 d'une rencontre, là, que ce soit au travail ou que ce soit pour un X, Y projet, on était juste dans l'introduction de cette rencontre-là ce matin. Par contre, Jérémy, il y a quelque chose que tu as abordé et tu as survolé que j'ai trouvé fort intéressant dans les dernières minutes, puis on est passé vite. Trudeau a besoin de Legault, Legault a besoin de Trudeau. Est-ce que Trudeau a plus besoin de Legault que Legault a besoin de Trudeau?
Je pense que les deux ont besoin. Je pense que les deux ont besoin l'un de l'autre parce que, bon, M. Trudeau, c'est vrai que ses élections arrivent plus rapidement. Et l'écart avec les conservateurs, en ce moment, les derniers chiffres, on a les conservateurs qui frôlent 40% au point de vue fédéral et les libéraux qui sont à 24%. Mais M. Legault, lui aussi a une tendance à la baisse. Le Parti québécois, dans les derniers chiffres, était à 31% versus 24% pour la Coalition Avenir Québec. Donc, mathématiquement, les deux hommes ont besoin d'alliés. Les deux hommes ont besoin de démontrer qu'ils font des gains et que leur façon de faire est la bonne. Du côté de M. Trudeau, il veut garder... Le Québec est indispensable pour M. Trudeau dans la prochaine élection. Donc, il veut démontrer qu'il s'entend bien avec le gouvernement du Québec. Il a besoin d'un allié. Mais ce ne sont pas des alliés naturels. Idéologiquement, ils sont à l'opposé l'un de l'autre.
Oui, c'est plutôt stratégique. Justin Trudeau est en train de s'adresser aux médias.
On reconnaît que ça met beaucoup de pression non seulement sur le budget du Québec, mais aussi sur les systèmes, système de santé, système d'éducation. C'est pour ça qu'on est là pour travailler avec Québec, pour assurer qu'on est en train de reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et pour enlever de la pression, mais aussi avoir de la compensation. Mais on va parler plus directement des chiffres en rencontre de travail.
Good morning, Mr. Trudeau, Jay Turnbull, CBC. OK, donc c'est vraiment ce qu'on pensait, Jérémy. Là, ça semble être plus une mise en bouche, disons-le comme ça, ce qui s'est passé ce matin entre Justin Trudeau et François Legault. Et l'immigration était au sommet des enjeux, mais il n'y a pas encore de chiffres abordés ou de chiffres qui ont été... Mais le non-verbal de Justin Trudeau n'est pas très positif là, en ce moment. Lors du point de presse, j'ai l'impression que ça a peut-être brassé.
Même lorsqu'ils sont entrés, c'est pas des alliés naturels, on le disait un peu plus tôt. Même quand ils faisaient leur petite mêlée de presse avant la rencontre, on sent pas une grande amitié légendaire entre les deux hommes. Là.
Ça a l'air décourageant, mais essentiel.
C'est essentiel. Bon, M. Trudeau a reconnu la pression financière. J'espère que ce ne sera pas juste. On reconnaît les pressions qu'on vit l'un et l'autre et on s'entend pour qu'on va collaborer ensemble pour un meilleur avenir pour nos deux partis. C'est, à un moment donné, là, les Québécois ont besoin de voir les choses avancer. En même temps, cette rencontre-là, c'est pas là que ça se passe. M. Trudeau a dit les chiffres, ça va se négocier dans les rencontres de travail avec les fonctionnaires, avec les deux ministres. Et là, si on parle des deux ministres de petites secondes, les deux ministres doivent mettre les guerres de Twitter de côté, s'asseoir à la même table et travailler ensemble.
C'est un bon lien vers notre dernier sujet, Jérémy. Mais juste pour clôturer, il y a des gens qui disent si Legault réussit à ramasser le pouvoir pour le Québec, il pourrait démontrer que le PQ est useless, qui en fait à laisser de côté et qu'il est capable de travailler avec les autres. Et ça enverrait un signal peut-être aux autres provinces aussi de se battre pour leur portefeuille ou encore leurs problématiques, leurs enjeux dans les provinces. C'est un commentaire d'auditeur qu'on vient de recevoir. Vous, Tu parlais...
Effectivement, mais l'équipe de M. Legault ne voudra jamais aller jusqu'à demander des postes frontaliers parce qu'on ne veut pas la responsabilité financière et toutes les autres responsabilités qui viennent avec ça.
Il y en a en masse aussi à gérer dans nos ministères en ce moment. On parlait des réseaux sociaux, de Twitter, les guerres là, où on s'affronte entre politiciens, mais il y a aussi tout ce qui est affrontement avec les citoyens. Récemment, il y a des enjeux dans l'actualité comme quoi est-ce qu'un politicien peut supprimer ou encore bloquer des gens de ces réseaux sociaux? Est-ce que c'est bien vu ou c'est mal vu? Finalement, quand quelqu'un te boycotte, soit en tant qu'analyste, commentateur, chroniqueur ou simple citoyen qui n'est pas d'accord avec ce que tu proposes, toi, comme politique, des fois, ça va plus loin. Des fois, ça va avec ça vient avec son lot d'insultes et même, finalement, de menaces. Encore une fois, ce matin, on lisait dans le journal qu'il y a un homme qui a été arrêté pour avoir fait des sérieuses menaces de mort au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. On sait que c'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de politiciens qui auraient été menacés à un point où la Sûreté du Québec a évalué l'utilisation de vestes pare-balles pour les politiciens. Là, c'est un homme de 40 ans qui a été arrêté, mais c'est loin d'être la première fois. Rappelons-nous juste ce qui s'est passé avec Pauline Marois lors de ses élections où elle a été gagnante, en fait. Il y a eu une montée quand même de l'intolérance, disons-le, comme ça, qui se fait voir beaucoup et se fait entendre beaucoup par les réseaux sociaux. Puis j'ai posé la question aux éditeurs un peu plus tôt. Est-ce que vous avez déjà insulté qui que ce soit sur les réseaux sociaux en vous pensant caché derrière votre écran? J'ai la présomption de croire que beaucoup d'auditeurs, ce sont des gens sains, la majorité. et il y en a quand même qui ont dit « Oui, moi, j'ai déjà osé passer mon message d'une manière peut-être trop agressive en réalisant pas que je m'adresse à un humain derrière qui peut avoir des répercussions autres que juste brasser la cabane, comme on dit. Mais ça a pris de l'ampleur dans les dernières années. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est tellement une question large. »
Bien, c'est une question large parce que, bon, au début, moi-même, j'ai déjà bloqué des gens sur mes réseaux sociaux. Moi, quand ça franchit la ligne du manque de respect, c'est là que je débarque. Puis quand ça fait en plus une menace physique à l'intégrité de la personne, quand on pense à M. Paul Saint-Plamondon qui s'est fait menacer, lui et sa famille, comme quoi ils allaient se faire exterminer par la personne qui a fait les menaces, c'est complètement inacceptable, on doit le dénoncer.
On ne peut pas prendre ça à la légère, là, même si la personne ne le ferait pas.
Jamais on peut prendre ça à la légère. Que ce soit une lettre papier ou que ce soit un commentaire sur le bord de la rue ou que ce soit via les réseaux sociaux. Et on voit de plus en plus les corps policiers, les autorités mettre leurs pieds à terre en ce qui a trait à ça. Après ça, c'est vrai, on a vu une augmentation de ce genre de commentaires-là parce que j'ai l'impression que les gens... Effectivement, à travers les réseaux sociaux, il y a comme un aspect déshumanisant. On ne s'adresse pas vraiment à l'être humain en arrière. On pense qu'il y a des équipes qui gèrent tout ça pour eux. Un, c'est lourd pour les équipes qui gèrent ça, c'est vrai. Mais les politiciens finissent toujours par le voir quand on se fait dire qu'on va exécuter notre famille, que ce soit via Twitter, en personne ou autre. Ça reste traumatisant. Là. Ça, c'est pour ça, le volet des menaces. Le volet de bloquer des gens. Moi, j'ai mis à la blague hier sur mes réseaux sociaux, à travers cette conversation-là, Yves-François Blanchet m'a déjà bloqué parce qu'il trouvait que j'étais peut-être un peu partisan à essayer de contredire ou à dire quand j'étais en politique.
Hey, mais Yves-François Blanchet, c'est un des pires bloqueurs. Là. Il bloquait énormément de gens à une époque. Là.
Dès qu'on n'est pas d'accord avec M. Blanchet, on a l'impression que M. Blanchet le bloque. Et il a toujours été constant avec ça, par exemple. M. Blanchet, comme c'est mes réseaux sociaux, c'est moi qui décide qui est là, puis si ça me tente pas de vous lire, je vais vous bloquer et c'est ça, puis je passe mon message.
Ça, dans la vie, quand tu es un citoyen normal, je comprends. Ouais. Est-ce qu'un politicien peut faire ça, par contre?
Bien, c'est ça. Le hic avec ça, c'est de dire, par exemple, moi, à l'époque, j'étais en politique, j'étais avec les libéraux. M. Blanchet me bloque. Moi, j'ai plus accès à rien de ce que M. Blanchet publie. Il faut faire la nuance. C'est pas tout est des menaces. Moi, dès que ça dépasse, ma limite, là, c'est quand c'est irrespectueux ou des menaces, moi, je bloque même personnellement ces gens-là. Quand c'est du débat, il y a toujours une façon de débattre de façon saine, sans tomber dans l'attaque personnelle, sans tomber dans mon maudit écœurant, Ça, à un moment donné, là, on dirait pas ça si la personne est en face de nous. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui diraient ça si c'est en face de nous. En fait, j'ai pas envie de m'asseoir pour prendre une bière avec cette personne. C'est là où c'est comme si les réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de ligne. On se permet des choses qu'on se permettrait jamais à faire en personne. À un moment donné, ce que notre mère nous a appris quand on était plus jeune, les bases de notion de respect avec nos amis, avec les gens qu'on rencontre, ben appliquez-les sur les réseaux sociaux. Ça va tout nous éviter des moments un peu comme celui-là.
Oui, c'est un bon conseil. Puis j'ai l'impression que se poser la question, est-ce que je lui dirais au visage en premier, en est une bonne, en fait, avant d'aller de l'avant.
Oui, ou juste de relire. Gardez votre tweet, relisez-le une heure plus tard. Si vous faites comme, ben mettez-le pas.
En même temps, les débats sont sains. Donc, la barrière très rapide de Yves-François Blanchet, pour prendre l'exemple, je la trouve un peu peut-être néfaste pour son image. Parce qu'à un moment donné, moi, ça m'a montré qu'il n'aimait pas le débat, il n'aimait pas les divergences d'opinion, il n'aimait pas quelqu'un qui le contredisait ou encore qui amenait des arguments ou qui n'était juste pas en désaccord avec lui. Puis ça, pour moi, ça a démontré une faiblesse politique. Sur le coup.
Ben, donc, ça montre que tu n'es pas capable d'accepter la critique ou de simplement défendre ton point de vue. C'est pour ça que je dis, il y a la limite de la menace et l'insulte, le manque de respect, mais de l'autre côté, quand c'est juste un refus de peut-être se faire, en bon français, challenger sur nos positions, sur notre idéologie, c'est normal. En politique, on ne va jamais être d'accord tout le monde sur le même sujet. Mais si on n'est pas capable d'en parler et d'en débattre sainement, c'est là qu'on a un problème.
Ça, le bas blesse. Merci beaucoup, Jérémie Guillaume. On va surveiller le point de presse de Justin Trudeau qui parle actuellement de sa rencontre avec François Legault un peu plus tôt ce matin. Mais ça semble vraiment être juste une mise en bouche ce qui s'est passé ce matin. Assurément, les deux enjeux, transfert en santé, immigration. On se reparle la semaine prochaine. Jérémie, merci.
Merci. Bye-bye.
Il est directeur chez TAC. Il a travaillé longtemps en politique dans les coulisses à gérer tout ce qui est communication et encore peut-être stratégie. Il est avec nous à chaque semaine dans leur CV. Je vous avais demandé si ça vous était déjà arrivé d'insulter. Puis là, c'était loin d'être un appel à l'insulte, là, mais d'insulter des gens ou des politiciens puis de faire « moi, c'était pas ma meilleure shot » parce que vous pensiez un peu caché derrière l'écran ou encore vous pensiez que ça n'allait jamais se rendre aux oreilles de la dite personne. Certains ont été honnêtes, certains l'ont dit. Moi, je le ferais pas par les réseaux sociaux, mais assurément que si, je dirais pas qui, si je croise telle personne en politique, je vais lui dire ma façon de penser par rapport à certaines gestions qui ont été faites dans le passé. Je n'irai pas dans l'insulte, mais assurément que je serais capable de lui dire en plein visage que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de problématiques et que j'ai détesté son passage en politique. Quelqu'un qui dit « Oui, moi, j'ai déjà insulté des gens qui avaient organisé une manifestation pro-armes à feu la journée commémorative de la tuerie de Polytechnique. Je suis pas anti-armes à feu, mais j'ai trouvé ça tellement stupide que je me suis emportée et j'ai manqué de fil. » Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, j'ai déjà insulté Justin Trudeau après des frasques à l'international nous avoir fait passer pour des stupides et des niaiseux. Finalement, j'ai passé pour un stupide et un niaiseux. Je regrette de ne pas avoir utilisé les bons mots pour faire passer mon message parce qu'officiellement, ça s'est retourné contre moi dans les réseaux sociaux et personne ne m'a donné d'attention. Si j'avais utilisé un meilleur vocabulaire, fort probablement que j'aurais pu avoir des débats et m'assurer un appui des autres. » Hey, c'est quand même très intelligent comme réflexion. 88-971-1021, si jamais vous voulez passer votre message. Ben ici, c'est possible. C'est... Ah, Jean Leloup. Je suis tellement contente. C'est une des meilleures... Je pense qu'ils m'ont entendu l'autre jour dire que je l'aimais beaucoup, celle-là. C'est un album à écouter et réécouter. Ben oui, c'est Jean Leloup. C'est un peu fou, ce qu'il chante, mais... Et qu'on l'aime.
Leur CV avec Pascal CV.
Jean Leloup, Cookie à Boulevard 101 en ce vendredi 15 mars. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi votre radio pour passer la journée. On est tous là jusqu'à la fin de la journée et en fin de semaine, les équipes se placent aussi pour vous faire passer du bon temps. Entre autres, essayez l'émission d'Audrey Pinchot. Vraiment le fun, les tunes un peu plus rock, mais acoustiques, qui vous permettent de passer un bon début de journée le samedi et le dimanche. Et Enviro Confort, vous savez, c'est quoi cette entreprise-là? Bien, en plus, ils sont super généreux et on a un concours en ce moment de thermo aux pompes. Hein? On veut vous en faire gagner une. Vous êtes toujours en train de vous dire oh, « il fait froid chez nous, il fait chaud ». C'est jamais correct, la température est jamais à votre goût. Vous réussissez à geler ou avoir trop chaud, ou encore les gens qui habitent avec vous. Mais sachez que la gang de Rage Against le matin ont le concours parfait. On veut corriger la situation chez vous. On veut être vraiment sympathique. Là. Et c'est en collaboration avec Aviro Confort. En fait, chaque matin, quand vous les écoutez, là, on est vendredi, donc vous avez passé votre tour. On recommence lundi prochain. Vous allez pouvoir dénoncer une personne dans votre entourage qui n'est jamais satisfait de la température ou ben, simplement pour connaître l'indice du jour qui sera donné à chaque matin dans Rage Against le matin et aller l'inscrire au blvd.fm. Écoutez ça, faites soit de dénoncer une personne qui n'est jamais bien du côté de la maison ou encore prenez l'indice du jour, allez mettre ça sur blvd.fm et vous allez peut-être gagner une thermopompe Lennox MLB de 12 000 BTU livrée et installée. Tout ça grâce à Enviro Confort. Ils sont vraiment gentils de nous permettre ça. En plus, avec l'été qui s'en vient, puis les températures assez chaudes qu'on a eues l'été dernier, ça va aider pour, bien sûr, réguler le tout dans la maison et avoir la paix. Enviro Confort, c'est la place. Ouais, Jean Leloup qui est avec nous avec Cookie, une des plus spéciales de Jean Leloup quand tu regardes le texte, mais en même temps, ça nous permet de connaître un peu sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà mis la main sur le livre qui est sorti il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant sur Jean Leloup, mais je vous le conseille. Louez-le à la bibliothèque au pire, là, ou allez l'acheter ou empruntez-le à un ami. Mais c'est vraiment fascinant de voir son parcours, puis surtout de comprendre sa mécanique créative qui est un peu niette. Il n'y a pas grand-chose là-dedans outre que lui-même. Ses tripes sur la table, aller où il veut aller dans les brancards, puis vous pousser de la musique. On n'a plus vraiment des artistes comme ça. Je cherche dans ma tête, je ne sais pas si vous en avez en tête, mais des créatifs qui se foutent de percer ou pas, mais qui continuent d'être eux-mêmes à un point tel que des fois, on est un peu mélangé dans ce qu'ils nous offrent. Ça prend toute une vie. Pas toujours la meilleure, mais quand même, toute une vie. En nouvelle, dans notre coin, ben, faut souligner aujourd'hui que Desjardins va construire la première maison des aînés privée au Québec. C'est quand même une grosse nouvelle. C'est le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. C'est un CHSLD privé conventionné qui appartient au mouvement Desjardins, qui va être remplacé au cours des prochaines années par une maison des aînés. Donc, nouveau bâtiment pour 180 personnes environ. Et ce sera le premier projet de maison des aînés qui sera pris en charge par le privé au Québec. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça peut changer la figure de la santé et de la fin de vie de nos personnes âgées du tout au tout, en fait. Ça figure au plan québécois des infrastructures 2024-2034. Ça, c'est pas mal le temps, soit un 10 ans là, qu'on consacre à tout ça. Et ça a été présenté mardi, en même temps que le budget. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas parlé autant qu'on souhaitait, mais le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis appartient à cette catégorie-là des centres d'hébergement et des soins de longue durée privés conventionnés. C'est un établissement qui est dirigé, bon, aux moyens privés, donc avec justement une autre vision que celle de seulement le ministère de la Santé. Et ça va être intéressant de voir, en fait, qu'est-ce qu'on va amener de plus? Est-ce que ce sera peut-être une qualité de vie supplémentaire? Est-ce que ce sera des locaux différents de ce qu'on connaît maintenant? Côté service, ça va ressembler à quoi? C'est sûr qu'il faut que ça soit une coche au-dessus, comme dirait l'expression, de ce qu'on connaît en CHSLD actuellement, surtout au niveau de la nourriture peut-être. Mais c'est une première au Québec et c'est une alternative quand même assez intéressante. J'ai hâte de suivre ça. Mais les plans qu'on a vus en fait du projet, ça ressemble à des appartements. Là. C'est fou. C'est sûr que c'est deux fois plus cher, par exemple. Tu sais, quand on a dévoilé le concept en 2019, c'est question de chambres construites à moins de 400 000 $ l'unité. Mais là, avec la plus récente évaluation du ministère de la Santé, c'est un coût qui est supérieur à 800 000 la porte. Et ben, pour la maison des aînés, c'est 180 personnes, comme je vous disais. Puis ça devrait coûter environ 144 millions de $. Donc, il faut souhaiter le faire. Il faut avoir les poches pour le faire. Mais après ça, probablement que ça va être populaire auprès de certaines personnes qui veulent une autre qualité de vie que celle des CHSLD que l'on connaît hein, au Québec et qui sont gérées par le ministère de la Santé. Il y a un ex-entraîneur de soccer de Québec qui a admis sa culpabilité pour 38 chefs d'accusation. C'est pas rien. Il s'appelle Félix-Antoine Bédard et il a reconnu sa culpabilité pour des accusations de leurre, d'exhibitionnisme, de production de pornographie juvénile et avoir rendu disponible du matériel sexuellement explicite. Ça s'est fait hier après-midi au Palais de justice de Québec. Il a renoncé à la tenue d'un procès en plaidant coupable. Et ben, c'est un ex-entraîneur de l'Académie Saint-Louis. Je ne sais pas si vous avez connu cet homme-là, mais coupable de 38 sur 55 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il y en a 3 qui ont été rejetés, 14 suspendus là, pour le moment. Il y a 30 ans à peu près, là, il y aurait fait plus d'une trentaine de victimes mineures entre 2020 et 2023. C'est assez récent, dont certaines joueuses de soccer qui l'entraînaient. Les présumées victimes avaient de 12 à 17 ans au moment des faits allégués. Et sa famille était dans l'assistance, même que des jeunes adolescentes accompagnées de leur famille étaient là. Mais jamais Félix-Antoine Bédard a regardé en leur direction. Là, c'est tout un procès qui s'est passé hier justement au Palais de justice de Québec, en même temps que celui de l'ex-juge de Lille. Fait que peut-être que ça a un petit peu moins retenu l'attention. Mais dans la trame factuelle de ce qui a été présenté en cours, on expliquait que Félix-Antoine Bédard approchait. Puis ça, c'est important parce que ça fait partie de cette cause-là, de cette histoire-là, mais c'est peut-être un stratagème qu'il faut connaître aussi en tant que parent ou en tant que, tout simplement, citoyen ou en tant que jeune. Mais lui, Félix-Antoine Bédard approchait des victimes par l'entremise des réseaux sociaux, entre autres Snapchat. Snapchat, je trouve que c'est sous-estimé des parents et méconnu aussi. J'avais appris à Yannick qu'il y avait une carte automatiquement dans la capacité de montrer où tu es exactement, dans quel bâtiment, à quel moment et en direct. Donc, elle est activée au départ. Si tu souhaites la désactiver, il faut que tu fasses le geste dans les paramètres de l'application pour désactiver la géolocalisation. Si vous êtes parent en ce moment puis vous savez que votre enfant utilise Snapchat, moi, je l'enlèverais. Je ne dis pas quoi faire, mais moi, j'enlèverais la géolocalisation parce qu'elle est plus que précise. Et bon, cet homme-là, Félix-Antoine Bédard, approchait des jeunes par Snapchat, il utilisait des pseudonymes, faisait croire aux victimes qu'il était âgé de 14 ou 15 ans. Là, rapidement, il y avait des conversations de nature sexuelle. On envoyait des photos de lui nu. Il en demandait aussi aux victimes. Et là, les avocats de la défense et de la poursuite vont se rencontrer au cours des prochaines semaines. On veut faire le point sur les chefs d'accusation suspendus, plus d'une dizaine, comme je vous disais. Et il va falloir faire des vérifications auprès des plaignantes. C'est pas terminé. Il pourrait aussi plaider coupable à plus de chefs d'accusation ce printemps. Il demeure détenu en ce moment pour ceux que ça intéresse. Et les observations sur la peine vont avoir lieu au courant des prochains mois. Mais c'est un dossier important là, dans la ville de Québec. Souvent, des gens qui travaillent comme ça dans la vie communautaire d'une école, bien, on en a côtoyé et on connaît les visages. À l'international, ça roule partout, partout, partout. Poutine, Vladimir Poutine, qui serait sur le point de dépasser Staline. J'ai l'impression qu'on mêle l'histoire en ce moment pour de très mauvaises raisons, disons-le, mais ça fait un quart de siècle hein, après l'arrivée au pouvoir cet homme-là, à la veille de dépasser Joseph Staline. Ça veut dire quoi, ça? Premièrement, c'est une des idoles de Vladimir Poutine pour sa longévité au Kremlin. Soit de 1927 à 1953, Staline y a été. C'est 26 ans. Et là, Vladimir Poutine, qui idolâtre Staline, souhaite le dépasser et il s'apprête à prolonger son règne avec un nouveau mandat de 6 ans. Donc, le vote pour l'élection présidentielle, ça a débuté aujourd'hui du côté de la Russie. Ça va se tenir 3 jours. On s'entend qu'il doit avoir une coupe de main forcée pour que Vladimir Poutine continue son règne en Russie. La Constitution lui permet, ben, théoriquement, là, d'exécuter un nouveau mandat en 2030. Et s'il est toujours là, c'est ce qu'on croit aussi, ben, il pourrait avoir passé là, pas moins de 36 ans au pouvoir. Et ça jase partout. Il n'y a pas vraiment d'opposition en ce moment. Elle est plutôt décimée. Là. Rappelez-vous, les derniers opposants, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Beaucoup de morts suspectes et justement des enquêtes publiques internationales là-dessus. Rappelez-vous, là, un de ses opposants, Navalny, qui est décédé de façon spectaculaire, disons-le comme ça, malgré que ce soit en douceur parce qu'il prenait sa marche, puis on pense qu'il a été empoisonné, mais il était dans une prison du côté du Nord et il est sorti une journée prendre sa marche, puis finalement, il est décédé. Mais on pense que c'était une exécution, en fait, qui a été faite par Vladimir Poutine et qui a été commandée. Voilà pourquoi, à l'international, on demande des comptes. Est-ce qu'on réussira à voir clair dans tout ça? Je ne sais pas. Mais Vladimir Poutine n'est pas loin et n'est pas prêt de partir du pouvoir. Là. Il va rester à la tête de la Russie pour un bon bout avec comment il décide de procéder. Et je termine avec 13 milliards de dollars pour l'électrification des autobus. Geneviève Guilbeault veut faire baisser la facture de ces autobus électrifiés-là pour la mobilité durable. Et ça concerne Québec aussi. Hein? Les sociétés de transport du Québec là, évaluent un coût à plus de 13 milliards de dollars pour les différents plans d'investissement sur 10 ans. Mais on se questionne, puis on veut surtout faire baisser les factures, parce que rappelez-vous, juste au RTC, on est dans des déficits là, annuellement. Est-ce que vraiment on va se rendre là en ce moment? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un investissement qui se doit? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'au niveau environnemental, ça va vraiment changer la donne? Est-ce qu'au prorata, quand on regarde ce qui sera fait côté coût, soit peut-être l'essence qui va diminuer et l'électricité qui va coûter moins cher, puis qu'on va réussir sur X nombre d'années d'être plus rentable. Peut-être que ce 13 milliards-là sera rentabilisé avec l'électrification des transports collectifs. Mais est-ce qu'on est sûr? C'est plutôt ça qu'on veut voir. On veut voir des chiffres. On veut pas encore des gens qui dépensent l'argent pour être en déficit pendant de nombreuses années. 418-971-1021, c'est la manière de nous rejoindre. Et je veux vous mentionner que vous pouvez choisir la musique à Boulevard 102.1. Vous pouvez faire partie de cette société secrète sur le site de BLVD. Bien, vous pouvez aller blvd.fm dans la section concours ou sur la page Facebook et compléter un court sondage qui vous donne le droit de choisir les chansons qui vont passer à Boulevard 102.1. C'est quand même agréable. C'est votre radio, puis c'est votre musique. Je sais que lui plaît à beaucoup, dont à Denis Gravel, c'est Clay Scott avec Masterpiece à Boulevard 102.1 dans leur CV. It's
time! Leur CV avec Pascal CV.
L'émission tire à sa fin. Merci d'avoir choisi leur CV. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous gâter. C'est vendredi. Je vous envoie dans un endroit certainement de plus en plus populaire. Hein? Le Salon du vélo de Québec. Ça se passe au Centre de Foire Exposité. Et c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 mars, donc dimanche. Il y a près de 100 exposants qui seront sur place. On va aller vous présenter les dernières nouveautés, les tendances à venir pour la saison 2024. Et le plus important, c'est que c'est le plus grand salon au Québec consacré exclusivement au monde du vélo et du cyclotourisme qui est en grande montée, en grande popularité. Je sais qu'à Québec aussi, on a des endroits extraordinaires. Puis là, je parle pas juste de la piste cyclable, mais je parle pour le vélo de montagne, c'est trippant. Allez au Salon du vélo, au Centre de foire d'Exposité en fin de semaine. Salon du vélo de Québec et il y aura des gens de partout qui vont venir, justement. Moi, j'ai des paires de billets à faire gagner maintenant. Juste à m'écrire vélo au 418-971-1021. C'est quand même vraiment trippant d'aller voir c'est quoi. Et le cyclotourisme, si vous pensez que c'est pas pour vous, vous n'êtes pas en forme ou X, Y, Z, ben vous mettez un doigt dans l'œil, en fait. Vous partez avec votre petite tente rétractable sur le vélo, c'est léger, puis vous roulez, puis vous tripez, vous découvrez les paysages à vélo. Je dis ça parce que la dernière fois que j'y étais, moi j'y étais avec une de mes amies qui venait d'accoucher et qui traînait sa fille, sa tente, son stock, puis sa remise en forme, mettons, sur la selle du vélo. Fait que quand je dis que ça s'adresse à tout le monde, c'est le cas. Il faut juste choisir notre territoire, notre terrain, puis notre trail, en fait, en conséquence. On ne fera pas de vélo de montagne avec la petite, mais c'est là où vous allez découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. C'est au Salon du vélo de Québec. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour en fin de semaine, j'ai des paires de billets à vous donner au 418-971-1021. Allez écrire vélo. Et je termine là-dessus. On se retrouve dans Marceau le midi. Il s'en vient. On va parler, entre autres, de fraude amoureuse. Je sais, on en parle depuis des années. Hein? Je vais le dire, beaucoup d'Africains qui réussissent à avoir quelques Québécois, autant financièrement qu'amoureusement. Et Félix Séguin, le journaliste d'enquête, est allé avec des caméras cachées, finalement cogné à des portes des arnaqueurs, des fraudes amoureuses. Et on va aller faire un petit récapitulatif de tout ça avec des experts dans Marceau le midi, puis bien sûr, tous nos collaborateurs habituels. Restez là. Puis on va reparler aussi là, du fameux vol chez Boeing où les gens ont presque été sortis par la porte parce qu'il y a une porte qui était mal installée et qui a ouvert pendant le vol, tu sais, sur le vol d'Alaska Airlines, là. Ben, on a des nouvelles là-dedans aussi. Restez là, restez dans Marceau le midi, on se retrouve dans un instant. Yannick Marceau s'en vient. Et Tom Gauthier qui est de retour. Ouais, c'est terminé, là, la petite escapade à la maison en circuit fermé. Il est de retour dans notre studio à Boulevard 102.1.